BFM Business, le grand journal de l'écho, édition du week-end, Karine Verniol.
Opération séduction du gouvernement auprès des entreprises étrangères. Emmanuel Macron a lui-même participé à une réunion en visioconférence cet après-midi pour vanter les charmes de la France et surtout les charmes de son plan de relance auprès des dirigeants de Coca-Cola, par exemple, InBev, Envision, Tata, Unilever ou encore Zalando. Franck Riester est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, pourquoi cette opération, c'est l'opération Choose France que vous avez déjà lancée les années précédentes, pourquoi cette opération, est-ce vraiment le moment de relancer la machine de l'attractivité alors même qu'on est touché de plein fouet par la deuxième vague de l'épidémie et qu'on est de nouveau en reconfinement, donc avec une économie qui marche au ralenti?
Oui, mais la question de l'attractivité de la France s'inscrit dans une stratégie long terme du président de la République et du gouvernement depuis 2017, de faire en sorte que la compétitivité de notre pays soit améliorée au service bien de la capacité de nos entreprises à se développer en France, mais aussi au service de l'attractivité du pays pour que des investisseurs partout dans le monde viennent investir en France, créent des usines, créent des activités au service de l'emploi et de la croissance en France. Et le plan de relance est un élément essentiel de cette compétitivité, cette attractivité de la France. Et c'est donc effectivement tout à l'heure que le président de la République a lancé toute une série de rencontres avec des chefs d'entreprise, des investisseurs étrangers dans les jours et les semaines qui viennent pour expliquer ce qu'est ce plan de relance et expliquer que la stratégie française d'amélioration de la compétitivité de notre pays au service de la création d'emplois, au service du développement des entreprises n'est pas du tout remise en cause. Bien au contraire, et même accéléré par ce plan de relance.
Il y a ce rendez-vous
avec le président de la République. Il va y avoir une série d'autres webinaires, d'autres visioconférences avec Partem, l'agroalimentaire, la santé, le développement durable. Et un travail important qui va être fait aussi par tous les réseaux diplomatiques. Chaque ambassadeur va recevoir des investisseurs dans le pays dans lequel il est installé pour expliquer le plan de relance et expliquer la stratégie de compétitivité de la France.
Mais pour revenir sur ce que vous disiez, est-ce que des envies d'investissement de groupes étrangers ont été mises à mal par la crise, selon ce que vous savez? Est-ce que certains ont reculé des investissements en France?
Oui, certains ont un peu décalé leur investissement, d'autres les ont maintenus dans le rythme d'investissement, parce que vous savez, des investissements pour beaucoup d'entreprises, c'est des investissements sur le temps long. Et même s'il y a à un moment donné une crise conjoncturelle, ce n'est pas pour ça que ça remet en cause la stratégie d'implantation dans un pays dont les éléments d'attractivité sont en amélioration nette et donnent envie de venir investir sur le temps long en France. Et donc, ces échanges ont permis à la fois d'expliquer cette volonté de la France de maintenir cet effort de compétitivité et d'expliquer en quoi ce plan de relance, par la baisse des impôts de production, par l'accompagnement aux investissements dans des secteurs d'avenir, la transition écologique, la révolution numérique, est de nature à conforter justement les choix de ces entreprises, de ces investisseurs, et même d'en faire venir de nouveaux, parce que la France est attractive.
Rapidement, est-ce que de ce que vous savez, suite aux discussions aujourd'hui avec Emmanuel Macron, ou par rapport à ceux que vous côtoyez dans vos discussions, quelles sont les principales inquiétudes des grands groupes étrangers aujourd'hui? Quelles sont les questions précises qu'ils vous posent?
Donc écoutez, on a parlé à la fois de cette stratégie du plan de relance, et je dois dire que la réaction des investisseurs, c'était la satisfaction de voir que nous sommes sur un plan de relance basé sur l'investissement, sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises, sur la formation des talents, parce qu'une des grandes richesses de notre pays, ce sont ces talents, ce sont les ressources humaines, et dans ce plan de relance, il y a beaucoup qui est fait pour les ressources humaines, pour la formation et notamment pour les jeunes. Et en même temps, on a parlé des enjeux d'avenir de l'économie mondiale dans laquelle la France a un leadership incontesté. Vous savez que le président de la République est très impliqué sur les questions de développement durable, de modernisation du commerce international, des questions sociales aussi, et la nécessité de faire en sorte que nous prenions mieux en compte les impératifs sociaux dans la mondialisation. Et nous avons donc parlé de tous ces enjeux, de ces agendas diplomatique, économique, dans laquelle la France est très impliquée et qui est de nature aussi à rendre la France plus attractive pour les investisseurs à l'international.
Pardon Franck Reisser, mais je vais prendre juste un dernier exemple. Quand on regarde ce qui s'est passé les derniers jours avec la polémique contre Amazon, donc lancée un petit peu par tout le monde alors que les commerces doivent fermer leurs portes, quand on se dit qu'une grande entreprise américaine est accueillie de la sorte en France, est-ce qu'une grande entreprise comme Coca-Cola ne s'interroge pas aussi, ou Zalando, puisqu'on est sur la même proposition de marketplace, ne s'interroge pas sur l'accueil qu'elle pourra avoir en France?
On a parlé avec Coca-Cola d'un certain nombre d'enjeux autour du recyclage des contenus, notamment plastiques, donc les questions d'environnement, d'économie circulaire, et l'engagement de la France en la matière a été pris en compte. Après, il faut bien expliquer aux entreprises là, et donner peut-être encore plus de prévisibilité et de visibilité sur l'avenir de ces législations en matière environnementale, et c'est un engagement que nous avons pris. Et puis deuxièmement, sur ce qui concerne l'e-commerce, l'e-commerce aujourd'hui est une donnée hein, dans le paysage du commerce de notre pays. Ce qui compte, c'est que ce soit d'une façon équitable, qu'il y ait une concurrence loyale. C'est ce que nous avons dit très clairement à Zalando. Pour autant, Zalando a une ambition, c'est une entreprise allemande, ce n'est donc pas une entreprise, c'est une entreprise européenne qui souhaite offrir aux consommateurs européens un service de logistique dans la distribution qui est à prendre en compte et parfois plus intéressant que ces entreprises s'installent en France plutôt qu'elles s'installent à l'extérieur de notre pays tout en permettant aux entreprises, au commerce de centre-ville, à la grande distribution, de pouvoir être à armes égales avec ces entreprises-là. Et c'est tout le travail que nous menons en Europe pour que ces plateformes stratégiques, dites stratégiques ou structurantes, soient mieux régulées pour davantage de concurrence loyale avec le commerce traditionnel.
Très bien. Très rapidement, Franck Reisser, quand même une dernière question sur l'actualité. La victoire de Joe Biden peut-elle apaiser les relations commerciales avec les États-Unis? Pensez-vous qu'elles seront plus simples, qu'il y aura moins de tensions?
Écoutez, on le souhaite. On le souhaite parce que nous voulons apaiser les choses avec les États-Unis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des tensions. Et ce n'est pas au bénéfice ni de nos entreprises, ni de nos salariés. Mais en même temps, nous devons défendre nos entreprises et leurs salariés dans cette compétition-là. A priori, en ce qui concerne le développement durable, les choses devraient évoluer positivement. Parce que vous avez vu que Joe Biden a dit que très clairement, les États-Unis, s'il était élu président, reviendraient dans l'accord de Paris. C'est une bonne chose. Et on espère que sur la forme, les relations seront plus apaisées pour qu'on puisse construire et renouveler une relation transatlantique apaisée au service à la fois du développement des échanges avec les États-Unis et au service de la satisfaction d'un certain nombre d'enjeux qui dépassent l'économie, des enjeux mondiaux comme le développement durable, par exemple.
Merci infiniment, Franck Reisser, d'avoir été avec nous ce soir, ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci beaucoup à vous. Et vous le disiez tout à l'heure, votre objectif en ce moment, c'est de convaincre les investisseurs étrangers du bien fondé du plan de relance que vous avez lancé il y a deux mois. Et pourtant, du côté français, Éric Chanet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller économique de l'Institut Montaigne. Eh bien, on se pose un peu la question de l'intérêt aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est-à-dire à l'heure d'un reconfinement, à l'heure où effectivement on est en pleine deuxième vague qui s'annonce assez terrible, de la légitimité ou en tout cas, est-ce que ce plan de relance est celui dont on a le plus besoin aujourd'hui? C'est bien ça la question que vous posez.
Oui, je ne pense pas qu'il soit inutile, mais ce n'est pas un plan de relance. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de relancer l'économie. Donc c'était une bonne idée de renforcer la compétitivité, de baisser les impôts à la production. Ce qu'il y a dans le plan de relance est, a des qualités. Mais lorsqu'on regarde le séquençage des dépenses, on s'aperçoit qu'il sera étalé sur plusieurs années. Je vous prends l'exemple de la rénovation des bâtiments publics qui a à chaque plan de relance que les gouvernements français, qu'ils soient de gauche ou de droite, nous sortent. Eh bien, c'est toujours beaucoup plus long que prévu. Donc, est-ce que ça servira à sortir l'économie française du trou? Et c'est un sacré trou. Avec le nouveau confinement, elle sera probablement environ 10% au moins en dessous de son niveau d'il y a un an à la fin de cette année. La réponse est non. Ce plan vise à transformer l'économie, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on a besoin de relancer l'économie en injectant de l'argent qui sera dépensé.
Donc on a déjà, le gouvernement a déjà mis 100 milliards d'euros sur la table. Vous venez de l'expliquer, mais plutôt pour des objectifs finalement à moyen ou long terme. Donc qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui, Éric Chanet, pour finalement ce qu'on pourrait appeler un plan d'urgence pratiquement ?
Oui, alors il y a des mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement et il faut les saluer. On prolonge des choses qui ont été faites, on en a rajouté d'ailleurs pour les entrepreneurs individuels. Tout ça est très bien. Du plan qui s'appelle France Relance, il y aura peut-être quelque chose comme 35 à 40 milliards qui seront dépensés en 2021. Et ça, c'est complètement insuffisant. Et donc nous proposons un plan supplémentaire, conjoncturel, d'au moins 60 milliards d'euros, ce qui fait qu'on arriverait à peu près à 100 milliards dépensés cette année. Et ça, ça fait pas loin de 5% du PIB. Ça commencerait à faire redémarrer notre économie. Et il faut qu'il soit réparti entre soutien aux revenus des ménages, maintenant c'est de ça qu'il faut parler, et soutien aux entreprises. On a un paradoxe incroyable. Les ménages ont plein d'argent. Quand on les agrège.
Eh oui, c'est ça. Quand on regarde l'épargne des Français, on a vraiment beaucoup mis de côté.
Exactement.
Et ce n'est pas dépensé. Et c'est vrai que jusque-là, le gouvernement n'avait pas souhaité faire de relance par la consommation. Et vous dites, là, ça devient indispensable, on n'a plus le choix. De
oui,
quelle
tout
manière
à fait. Tout à fait. Je crois que c'est indispensable. Les Allemands avaient raisonné différemment, puisqu'ils avaient baissé la TVA et qu'elle sera, cette baisse se terminera au 31 décembre. Et alors, deux choses. Beaucoup de gens ont épargné, mais une partie de la population n'a pas épargné. Ce sont les ménages à faible revenu. Les familles monoparentales très endettées, la Banque de France l'a signalé, elle a vraiment agité le drapeau. Les indépendants qui sont en train de disparaître et donc de se retrouver au chômage. Là, des aides directes à la consommation sur ces familles à bas revenus, des coupons par exemple d'alimentation, ça serait de l'argent immédiatement dépensé.
Comme ça, c'est de l'argent fléché quand vous dites des coupons d'alimentation, contrairement finalement à une baisse ou à des aides globales, comme ça, vous vous dites c'est pour l'alimentaire.
Oui,
faut le
c'est une manière, on sait que les budgets des familles les plus modestes sont mangés essentiellement par le logement et par l'alimentation. Si on injecte de l'argent dans l'économie, il faut qu'il soit dépensé. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est surtout qu'il faut que ce soit sous conditions de ressources. Inutile de soutenir le revenu des gens qui ont accumulé 200 milliards d'euros d'épargne. Même chose pour les entreprises. Il y a à peu près 180 milliards d'euros de liquidités supplémentaires qui ont été obtenues très souvent en tirant sur les prêts garantis. Mais les entreprises n'investissent pas pour des tas de très bonnes raisons. Et il faut les convaincre de dépenser plus.
Comment ?
Alors, il y a un coût de l'incertitude. Il est très important, cette incertitude, elle est essentiellement, évidemment, l'épidémie et la façon dont elle sera traitée, dont le plan de vaccination va venir, etc. Et donc, il y a des choses qui ne coûtent rien, qui peuvent réduire l'incertitude, qui peuvent restaurer la confiance.
Tenez-nous.
Ça consiste à annoncer, lorsque ce sera possible, il ne faut pas trop se presser, il faut bien le faire, un plan de vaccination et surtout préparer un plan de communication pour convaincre la population. Vous savez qu'il y a pas mal de gens sceptiques.
Il n'y a pas encore le
vaccin. Les vaccins vont arriver.
Ils vont arriver. Ça sera dans 6 mois.
Oui, tout à fait. Mais avoir déjà un plan, je crois que le gouvernement y travaille, c'est bien évident. Un plan qui doit être au niveau européen. Et pouvoir communiquer dessus, c'est un facteur qui peut ramener de la confiance. Ça ne suffira pas. Nous proposons de soutenir l'investissement des entreprises. Il y a un moment où ce qu'on appelle les esprits animaux, c'est la concurrence souvent qui fait ça, les entreprises recommencent à investir. Mais il y a toujours le poids de cette incertitude. Nous proposons de subventionner 10% de l'investissement, mais uniquement en 2021. Ça peut être sous la forme, par exemple, de crédit d'impôt. Moi, j'appelle ça un avoir fiscal. Donc, les entreprises s'en servent pour payer n'importe quel prélèvement et à n'importe quelle date. Mais ça s'arrête au 31 décembre. Et ça, ça augmenterait l'accélérateur d'investissement.
Mais ceci dit, il m'a semblé que certaines entreprises n'avaient même pas encore utilisé, par exemple, leur PGE décroché pendant le premier confinement. Et certaines entreprises ne savaient même pas encore, n'avaient même pas encore utilisé toutes les aides. Donc, est-ce que la solution, c'est vraiment de rajouter une aide à une aide ?
Alors, les PGE sont faits pour créer un matelas de sécurité pour la liquidité et la trésorerie des entreprises. La trésorerie a augmenté de 180 milliards, les PGE ont augmenté de 180 milliards. Donc, si je puis dire, les comptes en banque des entreprises ont monté à peu près de la somme qu'elles ont empruntée. Elles ont emprunté d'ailleurs pour les PME. Très souvent, leur banque leur a dit « Vous empruntez, si vous voulez rester un bon client, vous empruntez. » Bon, elles ont emprunté pour faire face à l'incertitude. Très bien. Il faut convaincre de dépenser. Et donc, c'est pour ça que sur l'investissement, s'il y a un avoir fiscal qui peut être dépensé en 2022, 2023, 2024, quand vous voulez, ça change beaucoup la donne parce que les PGE, les prêts, il faudra bien les rembourser. Et c'est une angoisse d'ailleurs dans les entreprises. On dit, j'ai emprunté, peut-être que je ferais mieux de rembourser tout de suite si je ne vois pas comment le dépenser. Et donc, il s'agit de quelque chose de différent. Une subvention, ça reste dans les comptes de l'entreprise.
Deux petites questions.
À condition de dépenser, bien sûr.
Bien sûr. Deux petites questions rapidement, Éric Chanet, pour terminer. Ces secteurs qui sont totalement à l'arrêt depuis des mois, qui ont à peine eu le temps de reprendre. Je pense à la culture, je pense à l'événementiel, l'hôtellerie-restauration qui est bon an, mal an, qui n'a pratiquement pas repris, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ?
Alors, je crois qu'il faut se poser la question des indépendants, des petites entreprises, dont beaucoup sont dans ces secteurs-là, je pense en particulier à l'hôtellerie et la restauration, qui vont se retrouver en faillite, sans capital, alors que leur plan d'affaires est viable. On retournera dans les restaurants, on retournera dans les concerts, etc. Et donc là, il faut réfléchir, ce n'est pas évident, à un moyen de subventionner les capitaux propres des entreprises sans les nationaliser. Parce que ça serait complètement absurde. Ça peut être des produits hybrides. Il y a beaucoup d'imagination à Bercy, on peut trouver des solutions. Donc cette question des capitaux propres, subvention aux capitaux propres, mais on parle là vraiment des très petites entreprises, elle va se poser, il faut y avoir réfléchi d'avance, pour apporter des solutions. Alors après, il y a la question des secteurs. Oui. Il y a des secteurs qui, après la crise, nous ne savons pas exactement de combien, mais auront un niveau d'activité inférieur. Le transport aérien ne reviendra pas là où il était. Est-ce qu'il faut les aider éternellement ? La réponse est évidemment non. Et donc, il va falloir apprendre à débrancher là où ça ne sert plus à rien pour permettre à l'économie de se réallouer vers les secteurs qui marchent. On parlait justement de tout ce qui était en ligne avec le ministre délégué du commerce extérieur. Bah ça marche formidablement bien. C'est là que doivent aller les ressources.
Une toute dernière question, mais est-ce qu'il ne fallait pas d'abord mettre beaucoup d'argent dans l'hôpital ?
Alors, là, vous avez absolument raison, mais je pense qu'on dépense maintenant énormément sur la question sanitaire. La priorité des priorités, y compris pour rétablir la confiance des consommateurs et des entreprises, c'est de régler la crise sanitaire. Mais comme ça a été très souvent dit, on ne va pas former des infirmiers, des médecins en 6 mois. Et donc là, il s'agit d'un plan à long terme. Je crois vraiment que ça, c'est quelque chose, une leçon qui a été durement apprise, mais bien apprise par le gouvernement.
Merci infiniment Éric Chanet pour toutes ces précisions, donc auteur de cette étude qui a regardé de près ce plan de relance. Et voilà quelques propositions que vous faites aujourd'hui au gouvernement qui, je pense, seront regardées de près. Vous êtes conseiller économique de l'Institut Montaigne. Merci beaucoup,
d'avoir
été avec nous ce soir. Allez, un petit rappel de titre sur BFM Business. Et puis justement, puisqu'on parle de relance, il y a une entreprise, une petite entreprise, aujourd'hui une entreprise familiale d'équipementiers automobiles qui aujourd'hui, n'a pas décroché le jackpot, on ne peut pas dire ça, mais en tout cas, est le premier investissement du fonds Avenir Automobile 2. Et ça va sans doute bien les aider. C'est ce que nous racontera son dirigeant, le dirigeant de Coretec, dans un instant. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, édition du week-end. Karine Verniolle.
Et donc ces annonces, elles sortent du comité stratégique de la filière automobile qui s'est tenu aujourd'hui. Il a également annoncé un premier investissement du fonds Avenir Automobile 2. Ce premier investissement, il va se faire dans l'entreprise familiale Coretec. Daniel Lecor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président et fondateur du groupe Coretec, une entreprise familiale établie en Bretagne. Vous travaillez donc dans l'équipement automobile. Vous l'avez créé en février 2002. C'est 4 sites en Europe, dont 2 en France, près de 350 personnes. Que faites-vous exactement ?
Alors, notre métier est de concevoir et réaliser des lignes d'assemblage pour les usines de nos clients, constructeurs automobiles, pour assembler des sous-ensembles de voitures.
Donc aujourd'hui, vous bénéficiez de la part de ce fonds Avenir Automobile 2 de 8 millions d'euros pour soutenir votre projet. Quel est votre projet ?
Alors effectivement, opération importante pour nous qui va nous permettre de mettre en place, mettre en œuvre notre projet de développement et de croissance sur les 5 et 7 prochaines années autour de la transformation de l'industrie automobile.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire que l'industrie automobile est en pleine transformation face à de nombreux défis que sont l'environnement, que sont les différentes motorisations, l'évolution des moteurs, la digitalisation, le numérique, la technologie embarquée. et vont amener les usines à devoir se transformer par rapport à leur mode de fonctionnement actuel. Et c'est là où nous intervenons, dans la conception et la réalisation de nouveaux moyens adaptés à ces évolutions.
Sans cette aide de ce fonds Avenir Automobile 2, est-ce que ça aurait été compliqué de mettre en œuvre ce projet ?
Forcément, puisqu'on a un projet ambitieux et qui nécessite des moyens, des ressources économiques. Et oui, bien sûr que ça aurait été plus compliqué pour le mettre en œuvre. Donc cette opération est très très importante pour nous et pour nous développer, c'est très fort.
Qu'est-ce qui a convaincu, selon vous, BPI France de vous choisir ? Parce qu'il faut se porter candidat. J'imagine que beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites entreprises du secteur de la filière automobile ont, comme vous, frappé à la porte. Qu'est-ce qui a convaincu, à votre avis ?
Alors, il faudrait le leur demander, forcément, parce qu'ils auront un avis là-dessus précis. Mais c'est vrai que le fait qu'on soit une entreprise familiale, je dirige cette entreprise que j'ai créée, mais je suis accompagné de mon fils et de mon gendre. Le management, forcément, toute l'équipe de gouvernance en interne, et puis surtout la capacité d'innovation, bien sûr, que l'on a, capacité de conception, d'ingénierie, et qui est forte. Et c'est vrai que c'est un point important pour le FA2 pour faire cette opération.
Et puis, vous n'avez pas tous vos sites en France, vous êtes déjà un pied à l'international.
Tout à fait. Oui. On a un site en République tchèque et puis un site important en Pologne.
Et donc ça, c'est important. J'imagine que vous avez d'autres ambitions à l'international.
Exactement. On a aussi des projets de développement à l'international. Je pense par exemple en Amérique du Nord ou en Asie, mais à plus moyen terme échéance, je veux dire, pas immédiatement. Et oui, on a des projets de développement pour accompagner aussi. L'idée aussi, c'est d'accompagner nos clients sur toutes leurs implantations worldwide.
Daniel Lecor, est-ce que dans quel état est le groupe Corotec aujourd'hui ? Est-ce que à un moment donné, vous avez dû arrêter votre production pendant le confinement ? Et comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que vous avez pu récupérer tout ça ?
Alors, donc forcément, le premier confinement, il a été impactant, mais on a très très vite repris le travail normalement et j'ai envie de dire aujourd'hui, on a rattrapé le retard que l'on avait accumulé. Le deuxième confinement dans lequel on vient de rentrer, aujourd'hui, ne nous apporte pas de difficultés. On n'a pas de signaux particuliers sur notre métier et dans les relations clients. Ça continue, les projets continuent à se développer. On n'a pas arrêté d'activité, donc, quel que soit le site de production d'ailleurs, que ce soit en France ou en Pologne ou en République tchèque.
Donc même pas de chômage partiel aujourd'hui ?
Non, pas de chômage partiel. On n'a absolument aucun chômage partiel, quel que soit le site.
Est-ce à dire que du coup, les clients pour lesquels vous travaillez ont toujours autant besoin de vous et qu'eux non plus n'ont pas trop freiné leur production ?
La particularité, c'est que nous travaillons sur des futurs modèles qui vont sortir en 2021, 2022 et au-delà. On n'est pas impacté aujourd'hui par les ventes des modèles, puisque voilà, on travaille que sur des prochains modèles. Donc, nos clients continuent à travailler sur le développement des futures voitures qui seront dans la rue dans les prochaines années. Et c'est là-dessus où nous intervenons. Donc, pas de retard, d'impact lié à.
Donc, vous allez finir l'année correctement ? Chez Corotec.
On va finir l'année, alors nous on clôture au 31 mars, mais oui, on va finir l'année correctement, oui.
D'accord, vous n'êtes pas trop inquiet, et ce que vous visez avec ce que vous allez toucher du fonds Avenir Automobile 2, c'est, vous disiez, vous voyez loin.
Oui, complètement, ça nous donne de la perspective, c'est vraiment une très très belle opération pour nous, on est très optimiste pour l'avenir, sans aucun doute.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Daniel Lecor, fondateur et président du groupe Corotec, qui vient donc de décrocher le premier investissement du fonds Avenir Automobile 2. Merci beaucoup pour votre témoignage ce soir. Allez, dans un instant, non, tout de suite. D'ailleurs, on va voir comment ça se passe. En revanche, du côté des jeunes employés ou des jeunes qui sortent finalement de leurs études et pour qui la crise est plutôt très compliquée à vivre.
Le Grand Journal de l'Écho, édition du week-end sur BFM Business.
Et pour ça, on retrouve Mehdi Ramdani. Bonsoir.
Bonsoir Karine.
Donc Mehdi, chez LinkedIn, comme toutes les semaines, vous avez lancé un sondage en partenariat avec BFM Business. Et là, la question, c'était en quelque sorte, les étudiants et les jeunes sont-ils les sacrifiés de la crise? C'est vrai qu'on s'est souvent posé la question et forcément, ça fait parler sur le réseau social.
Oui Karine, plus de 17 000 membres de LinkedIn ont participé à notre sondage cette semaine et nous avons enregistré plus de 700 commentaires, un record.
Et alors, qu'est-ce que ça donne?
Alors, une très large majorité des répondants, 78%, comme vous le voyez, estiment que oui, les jeunes sont la génération sacrifiée de cette crise. Une quasi-unanimité sur le sujet, même si nous allons voir, les commentaires apportent de la nuance à cela.
Alors, justement, on imagine que c'est l'entrée sur le marché du travail qui inquiète le plus.
Oui, sans grande surprise, effectivement, c'est la question de l'emploi qui préoccupe les répondants, les jeunes, mais aussi leurs parents d'ailleurs. Alors, on sait que les jeunes sont souvent une variable d'ajustement sur le marché de l'emploi, ce que semble confirmer la crise actuelle. Alizé, qui est en recherche d'emploi actuellement, explique ainsi qu'elle est titulaire d'un master en gestion des risques obtenu juste avant la crise du Covid-19 et qu'elle avait trouvé facilement un CDI. Mais le virus est passé par là et sa période d'essai a pris fin pendant le confinement. Aujourd'hui, elle cherche un poste sans succès. Et puis beaucoup d'étudiants et de parents s'inquiètent aussi pour les études, avec une année scolaire en pointillé, des examens annulés. Maud, qui est étudiante en BTS tourisme, craint ainsi que son diplôme ait moins de valeur sur le marché du travail. Et puis Valérie s'inquiète, elle, pour son fils, qui a dû refaire une deuxième année de master parce qu'il ne décrochait pas d'alternance la première année. À tout cela s'ajoute la question psychologique. Beaucoup d'étudiants se retrouvent isolés, loin de leur famille, dans des appartements exigus, souligne Laurence, une situation qui peut être très difficile à vivre.
Mais si on regarde les choses objectivement, que vous dit-on, les jeunes sont-ils vraiment plus mal lotis que les autres générations?
Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Karine, qui est consultante en marketing, veut justement relativiser. Elle reconnaît que si la période est difficile, la jeunesse est aussi la mieux armée pour rebondir. C'est une génération agile qui peut saisir de nouvelles opportunités, notamment dans le digital, explique-t-elle, ce qui est au contraire beaucoup plus compliqué pour des seniors en fin de carrière qui auraient perdu leur emploi. C'est d'ailleurs un message qui revient en fait à plusieurs reprises dans les commentaires du sondage. Il ne faut pas opposer les générations. Laurent, qui est directeur informatique, explique qu'il y aura des dégâts sociaux et économiques pour tout le monde et qu'il faut donc se battre ensemble.
Eh ben voilà, ce sera la conclusion. Merci beaucoup pour ce sondage LinkedIn. Mehdi Ramdani, merci beaucoup d'avoir dépioté toutes ces infos pour nous ce soir. Restez avec nous dans un instant sur BFM Business, la suite du grand journal du week-end. Et bien sûr, on va quand même s'arrêter un instant aux États-Unis pour voir comment ça se passe. Est-ce qu'on va enfin approcher de la fin? Est-ce qu'on va enfin savoir qui de Joe Biden ou de Donald Trump va remporter les élections ce soir? Pour l'instant, on peut dire toujours avantage à Joe Biden, mais vous l'avez bien compris, rien n'est simple, on en parle dans un instant.
BFM Business, le grand journal de l'écho, édition du week-end, Karine Verniol.
Alors, l'élection présidentielle américaine, on en est où ce soir? Eh bien, écoutez, on a appris il y a quelques minutes que Joe Biden devait s'adresser à la nation ce soir, que les derniers comptes, on avait 253 grands électeurs pour Joe Biden, Donald Trump 214. Joe Biden qui dépasse désormais Donald Trump dans le décompte des ventes de la présidentielle en Pennsylvanie, mais le dépouillement n'est toujours pas terminé. L'équipe de campagne de Donald Trump qui martèle que l'élection n'est pas finie, et la Géorgie qui pourrait vouloir recompter les ventes. Avec nous, Renaud de Tilly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur de Tilly Real Estate, promoteur immobilier à New York. On va voir un instant avec vous, quelle est l'ambiance là-bas sur place, avec ce suspense qui n'en finit plus. Et également avec nous, Alexis Karklins-Marchais, bonsoir.
Bonsoir Karine.
Associé du cabinet de conseil Head Advisory et vous êtes spécialiste des États-Unis. On vous connaît bien sur BFM Business. Alors Renaud de Tilly, justement, quelle est l'ambiance chez vous en ce moment et notamment à New York? Est-ce que cette tension est palpable, si j'ose dire?
Alors oui, la tension est très palpable. New York, vous le savez, est majoritairement démocrate. Donc ici, tout le monde se rouge un petit peu les ongles et pour savoir un petit peu comment quelle va être l'issue de ce scrutin. Alors nous, chez De Tilly Real Estate, comme on est une agence immobilière spécialisée majoritairement dans les francophones, on peut observer aussi les différents mouvements qu'il peut y avoir entre les gens qui vont bouger de New York pour aller se réfugier, et c'est plutôt dû à la crise du Covid, vers les campagnes, vers les Hamptons, vers Upstate New York, pour aller chercher un tout petit peu plus de surface de terrain pour le même prix de location. Ou alors on a des investisseurs qui, eux, commencent à se réjouir du fait que Biden est en train de se décider comme étant le futur président des États-Unis, parce que sa politique de libre-échange un petit peu plus souple que celle de Trump va favoriser les investisseurs européens en euros sur les dollars américains. Donc, des deux côtés, il y a une tension sur le scrutin, et puis il y a aussi un petit peu une tension concernant l'immobilier, que ce soit du côté des locations ou que ce soit du côté de la vente
et ceci ou des achats. Ceci dit, la tension, elle pourrait continuer encore un peu, parce qu'à l'instant, le responsable des élections dans l'État de Pennsylvanie nous dit que le décompte définitif des voix dans cet État pourrait encore prendre plusieurs jours. Alexis Karklins-Marchais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, alors qu'on sait, je le disais tout à l'heure, que Joe Biden devrait s'adresser à la nation ce soir? Ça peut durer combien de temps encore, cette histoire?
Alors, il y a une date qui est presque une date pivot, Karine, qui est le 14 décembre, puisque le 14 décembre, le collège des grands électeurs doit choisir le président. Donc, il peut y avoir des recours, il va y avoir des recours, certains peuvent durer, il va y avoir des recomptages dans plusieurs États. On parle déjà d'un recomptage dans l'État du Wisconsin, qui a été donné à Biden déjà il y a deux jours, à Joe Biden. C'est objectivement quasiment certain maintenant qu'en Géorgie, il y aura aussi un recomptage. Juste pour vous donner un chiffre, en Géorgie, on a 4 900 000 électeurs qui ont voté. Donc, 4 900 000 bulletins. L'écart, actuellement, est de 1584 votes.
C'est incroyable.
1584 votes. Il reste encore une dizaine de milliers de bulletins à exploiter. Donc l'écart sera absolument infime. On sera en dessous de 0,1% d'écart. Donc la loi de Géorgie, typiquement, autorise un parti à demander le recomptage des voix si la marge, l'écart, est inférieur à 0,5%. Ça sera le cas. Et là, typiquement, la Géorgie, ça peut durer jusqu'à fin novembre. Donc, on ne saura probablement pas pour la Géorgie, de façon officielle, pour quel des candidats cet État s'oriente.
Sauf que l'un des deux peut gagner sans attendre le résultat définitif de la Géorgie, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement. Et ce que j'allais vous dire, c'est que sur la Pennsylvanie, même si vous avez un officiel qui a déclaré que ça allait prendre sans doute plusieurs jours, la Pennsylvanie vient de s'orienter aujourd'hui. C'était quand même la grande information du jour. C'était attendu, mais enfin, il faut quand même rappeler qu'il y a deux jours, Trump avait encore 700 000 voix d'avance dans les premiers décomptes. Là, on est maintenant, il reste encore à peu près 100 000 bulletins, un peu plus de 100 000 bulletins à dépouiller. Et Joe Biden est passé en tête aujourd'hui. Il a environ 10 000 voix d'avance. Pourquoi Joe Biden est confiant sur la Pennsylvanie? Parce qu'il reste à exploiter tous les votes par correspondance. Or, il est très fortement majoritaire sur les votes par correspondance depuis deux jours, avec une avance qui va de 70 à 80% des bulletins à chaque fois qu'ils sont dépouillés. Donc, normalement, son avance va continuer à s'accroître. Pourquoi les officiels sont prudents en Pennsylvanie? Parce que c'est l'État qui va être le plus regardé. Parce que c'est l'État où, justement, les Républicains envisagent de faire beaucoup de recours. Simplement, et je terminerai sur ce point-là, il est certain que si Joe Biden termine avec une marge importante ce soir, il sera quand même très très confiant et normalement, il sera à l'aise, puisqu'avec ce seul État, il aura le minimum de 270 grands électeurs dont il avait besoin.
Mmh. Donc on attend effectivement sa déclaration à la Nation ce soir aux États-Unis.
2h du matin en France.
2h du matin en France. Alors on va peut-être pas l'attendre tous ensemble. En tout cas, on va suivre ça, bien sûr, de très près. Renaud de Tilly, vous qui êtes promoteur immobilier à New York, vous nous le disiez, hein, vos clients sont plutôt des gens aisés. Mais ceci dit, est-ce que quand même, vous sentez un certain ralentissement? Parce qu'on regardait les chiffres de l'emploi aujourd'hui aux États-Unis, eh bien ils ont déçu. Hein. Les créations d'emplois en octobre sont au plus bas depuis mai. On a un taux de chômage à presque 7%. Donc on sent bien que, comme en France, finalement, la nouvelle vague de l'épidémie freine de nouveau l'économie.
Alors, effectivement, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, dans New York, c'est une des villes du monde, d'ailleurs, dans laquelle il y a le plus de gens riches. Ce que j'entends par riche, c'est qu'il y a plus d'un million de personnes qui ont entre 1 million et 30 millions de dollars de liquide assets sur leur compte en banque. Et quasiment 10 000 personnes qui ont plus de 30 millions de dollars. Ce qui fait de New York une ville où il y a plus de gens riches presque au mètre carré. Les prix de l'immobilier sont complètement démentiels. Évidemment, il y a un ralentissement pour répondre à votre question qui est lié naturellement aux élections présidentielles. Et ça, on peut le constater, que ce soit d'ailleurs en France ou que ce soit aux États-Unis. Bon, on estime d'ailleurs, si je dois me lancer sur un chiffre, que le ralentissement est de à peu près 5 à 8% sur les ventes. Il y a une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que New York est un marché où tout est mis en commun dans un système central unique. Mmh. Donc une entreprise comme la mienne, de Tiger Real Estate, on propose les 40 000 appartements qu'il y a à vendre en ce moment sur le marché ou les 40 000 appartements qu'il y a à louer sur le marché. Mmh. Donc ce qu'on peut constater, en fait, c'est oui, un petit ralentissement. Covid, oui, bien évidemment, et notamment sur les rentals. Allez, un autre petit chiffre qui est assez rigolo à savoir sur Manhattan, c'est que 7 appartements sur 10 sont des rental buildings. Donc, sont des immeubles qui sont liés à la location uniquement. Et donc là, c'est un peu le grand mercato en ce moment où tout le monde cherche à renégocier ses loyers ou, pour le même prix, essayer d'avoir quelque chose un peu plus loin, à Brooklyn, par exemple, ou Upstate New York, ou dans les Hamptons.
D'accord. Très rapidement, pour terminer, Alexis Karklins, est-ce que vous pensez que c'est bon pour Joe Biden ?
Oui, je pense que c'est bon pour Joe Biden. D'un point de vue calculatoire, d'un point de vue purement arithmétique, la stratégie de Donald Trump aujourd'hui, telle qu'on la comprend, c'est d'essayer de résister le plus possible. Je pense que ses avocats ont en tête l'idée d'aller jusqu'à la date que je vous donnais tout à l'heure, le 14 décembre, faire en sorte qu'il n'y ait pas de majorité. Alors, je vous rappelle qu'il y a une règle. Quand il n'y a pas de majorité de grands électeurs, le jour du vote des grands électeurs, alors c'est la Chambre des représentants qui choisit le président. Et chaque État a une voix dans ce vote. Or, il y a plus d'États républicains que d'États démocrates. Même si la majorité, en nombre de députés, est démocrate, il y a plus d'États républicains. Et donc, dans ce scénario-là, on pourrait imaginer, c'est un scénario évidemment peu probable, Karine, on pourrait imaginer qu'il y a encore une chance pour le président Trump. Mais très objectivement, c'est aujourd'hui Joe Biden qui est en situation de force.
Eh bien, on terminera là-dessus. On continuera à suivre, bien sûr, tout ceci avec vous. Merci infiniment. Alexis Karklins-Marchais, associé du cabinet de conseil Advisory, spécialiste des États-Unis. Renaud Tilly, depuis New York, fondateur de Tilly Real Estate.
Merci
beaucoup à tous les deux. Le grand journal de l'économie, c'est terminé pour ce soir. Bien sûr, on continue à suivre et à surveiller ce qui se passe du côté des États-Unis. Dans un instant, c'est Cyril Ariel, Objectif Raison d'être, puis Laure Clausier. Happy boulot. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain dès 18h. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end.
Le grand journal de l'écho, édition du week-end sur BFM Business.